Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 5 décembre. Aujourd'hui, des nouvelles du monde avec des infos plutôt longues. On va un petit peu aller creuser à l'intérieur de certains papiers que j'ai trouvés, que j'ai pas eu le cœur à couper. Donc, moins de sujets forcément, mais plus poussés. On va notamment aller faire un tour en Corée du Sud où il s'est passé un petit peu des trucs de dingue là ces derniers jours. On va parler aussi d'un rapport qui s'intéresse sur les violences sexuelles et sexistes au sein même de l'institution judiciaire. Vous savez, ceux qui sont aussi souvent en charge justement de traiter ces fameux cas de harcèlement, de viol, etc. Et une petite chronique judiciaire en mode le meilleur des mondes, où on va parler de cette fameuse apologie du terrorisme, hein, cette loi qui fait des ravages notamment depuis le 7 octobre, avec une petite histoire qui pourrait être drôle si elle ne conduisait pas une personne devant les magistrats aujourd'hui même dans la Drôme pour des tags. Hein, soutien à la Palestine. Et ben justement, on terminera ces infos avec des nouvelles du conflit en Palestine et surtout d'un rapport d'Amnesty International qui en parle là aussi encore comme d'un génocide. Tout d'abord donc en Corée du Sud, peut-être vous avez suivi ou pas parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe au niveau gouvernemental chez nous, donc je ne vais pas en parler dans ces nouvelles. Donc en Corée du Sud, un coup d'État a été déjoué par la mobilisation populaire dans la rue. Un petit retour sur ce coup de force le plus raté de l'année, hein. C'est ainsi en tout cas que titre ce résumé qui a été pondu sur les pages du site Contre-Attaque. Coup de théâtre donc, on remonte à ce mardi 3 décembre en Corée du Sud. Le président Yoon Suk-yeol, issu de la droite conservatrice, par ailleurs très antiféministe, intervient à la télévision. Il annonce par surprise l'instauration d'un régime d'exception, dit-il, pour protéger la Corée du Sud et pour éliminer les éléments anti-État. « Je déclare par la présente la loi martiale d'urgence. » Selon lui, l'opposition, y compris parlementaire, serait en train de planifier une rébellion contre l'ordre constitutionnel en faveur donc de la Corée du Nord. Dans la foulée de cette annonce, l'armée est déployée dans les rues avec des soldats, des blindés sur les routes et des hélicoptères militaires qui volent au-dessus du Parlement coréen. Un coup d'État en 2024 dans un pays riche, considéré comme une grande démocratie asiatique. Un retour inattendu aux plus grandes heures de la guerre froide. Immédiatement après ce discours présidentiel, les députés sont empêchés d'entrer dans l'Assemblée. L'armée annonce l'arrêt de toute activité parlementaire et l'interdiction des partis politiques et envahit le Parlement en brisant les vitres du bâtiment. Les militaires annoncent que toute personne qui organiserait une réunion politique, une manifestation ou une quelconque action sur la voie publique seront arrêtées. Toute personne sera arrêtée, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du président? Pourquoi a-t-il prononcé cette loi martiale? En fait, plus qu'une menace nord-coréenne, il semblerait qu'il ait voulu ainsi imposer le vote de son projet de budget, qui était rejeté par l'opposition parlementaire. Yoon Suk-yeol est aussi un président impopulaire, mis en cause pour diverses activités illégales, souligne l'article avec un petit peu de taquinerie. Toute ressemblance avec la situation française ne serait que pur hasard. En tout cas, la Corée du Sud est traversée par d'importants mouvements sociaux, puisqu'en juillet, des milliers de travailleurs de chez Samsung Electronics avaient déclenché les premières grèves de l'histoire de l'entreprise, qui est connue pour ses méthodes très antisyndicales. Des grèves de médecins ont aussi touché le pays depuis des mois. C'est donc assez logiquement que le président a annoncé avec la loi martiale que les grèves, les arrêts de travail et les actes de rassemblement qui incitent au chaos social sont interdits. Sauf que son coup d'État a fait plouf en quelques heures. Alors que l'armée était déployée, des dizaines de milliers de Sud-Coréens sont en effet descendus dans les rues, ont manifesté toute la nuit contre cette loi martiale. Le peuple a ainsi tenu tête aux soldats, qui les ont parfois mis en joue, notamment face à une foule. Mais face à cette déferlante, même les tanks ne pouvaient rien faire, à moins de déclencher un bain de sang, ce qui, heureusement, n'a pas eu lieu. Dans le même temps, des députés ont eux aussi fait face à l'armée et ont par exemple escaladé les grillages autour de l'Assemblée pour pouvoir aller siéger dans leur Assemblée malgré l'interdiction. Les militaires ont quand même arrêté plusieurs d'entre eux. Pour ce qui est de la finance, qui est souvent un autre indicateur et qui dicte beaucoup de décisions politiques, eh bien, la loi martiale a affolé les marchés financiers. Le cours de la monnaie coréenne, le won, a chuté brutalement, ainsi que les actions de toutes les entreprises du pays. Et enfin, coup de grâce pour ce président sud-coréen. Même les États-Unis, les USA, qui sont quand même les maîtres du sort de ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale, avec notamment de nombreuses bases militaires dans la région, bien même eux ont fini par demander un retour à la normale, étant donné la mobilisation et le désordre qui s'en suivait. Finalement, donc, le Parlement sud-coréen a réussi à se réunir, notamment, je vous le dis, en sautant les grillages, et ils ont voté à une très large majorité la levée de cette loi martiale. Ainsi, même au sein du parti du président, la plupart des élus ont désavoué leur chef. Le président du Parlement sud-coréen, par exemple, a annoncé que tous les soldats qui appliquent encore la décision de la loi martiale seront jugés pour trahison. Donc il faut qu'ils suivent les ordres du Parlement et non du président. Dans la foulée, la Confédération coréenne des syndicats a émis un appel à la grève générale illimitée pour obtenir la démission de son président et du gouvernement. Pendant que la population célébrait cette victoire dans la rue, les soldats se sont retirés du Parlement et des mêmes rues. Ainsi donc, en quelques heures seulement, une grande puissance économique comme la Corée a connu un coup d'État, une parenthèse dictatoriale et un soulèvement populaire qui y a mis fin de manière donc heureuse. Voilà un petit résumé par le média Contre-Attaque.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Une nouvelle étude vient de révéler l'ampleur des violences sexuelles et sexistes au sein de l'institution judiciaire française. C'est une note de 32 pages que Mediapart a pu se procurer et donc ils sont les premiers à en parler dans leur colonne aujourd'hui. Une note de 32 pages qui essaye d'objectiver justement l'ampleur des violences sexuelles et sexistes au sein de l'institution judiciaire. Alors que celle-ci a justement vocation à juger les crimes et les délits sexuels, entre autres, la justice n'est-elle même pas épargnée par ces derniers ? C'est en tout cas le constat dressé par le SM, le syndicat de la magistrature, dans cette étude, une étude de victimation. C'est la première fois qu'elle est menée et elle a concerné quelque 9000 magistrats et magistrates et des auditeurs et auditrices de justice en France. On reviendra un peu sur les statuts par la suite. En tout cas, pour la démarche, c'est donc le syndicat de la magistrature qui a adressé au mois de janvier de cette année une batterie de questions à tous les magistrats et magistrates sur la nature des faits dont ils auraient pu être victimes ou témoins. Ils ont demandé par exemple l'éventuel rapport hiérarchique avec l'auteur des infractions, les conséquences des faits, la manière dont a été traité le signalement en interne, s'il a eu lieu. Face à ces 9000 personnes donc sondées, seulement 525 réponses ont été faites, des réponses complètes de la part de personnes qui se disent victimes ou témoins. À noter que dans ces 525 réponses, 74% sont des femmes et 24% des hommes. Une étude qui n'a pour l'instant pas de prétention scientifique, mais qui permet au moins d'obtenir un premier aperçu de la situation et un premier travail d'analyse et de proposition, souligne le syndicat qui est donc à l'origine de cette démarche. Sur les faits, je vais un petit peu en détailler pas mal, hein, qu'on se rende compte aussi de quoi on parle. 2 viols ont été dénoncés, 19 agressions sexuelles, le plus souvent dans une relation d'autorité ou de hiérarchie. Ces agressions décrites sont par exemple des baisers forcés au tribunal, sur le lieu de stage ou dans un ascenseur, ou alors un maître de stage qui touche la cuisse d'une auditrice, y compris pendant une audience. Les auditeurs auditrices, ce sont des étudiants, je vous expliquerai ça. Une personne qui en coince une autre contre un mur dans un couloir, ou encore des caresses non consenties sur les fesses. Quant aux nombreux faits qui sont rapportés qui s'apparentent à du harcèlement, ils prennent tout d'abord la forme de propos sexualisés, de propositions sexuelles. Hein. Par exemple, des demandes répétées pour obtenir un numéro de téléphone, pour essayer de l'avoir en dehors du travail. Des demandes d'un magistrat honoraire à des greffières de se déshabiller. Des propos sexualisés répétés, du type « Ah oui, vas-y, prends ton temps pour que j'admire ton cul » à une femme qui se baisse, par exemple. Un magistrat qui demande à une collègue la couleur de ses sous-vêtements, qui lui envoie des baisers ou qui lui dit de faire des rêves d'elle nue. des commentaires récurrents par un magistrat sur le physique des jeunes femmes travaillant avec lui. Voilà ce que certains appellent des propos grivois. Sont aussi, par exemple, relatés des comportements harcelants. Hein. Là, par exemple, c'est plus quand on essaie de retrouver des femmes sur les réseaux sociaux, de les suivre à la gare à la sortie du tribunal, leur toucher la joue, la cuisse, ou encore des représailles exercées par un magistrat à l'encontre d'une personne qui l'a rembarrée, on va dire. Une femme, par exemple, raconte s'être vue imposer des changements récurrents d'emploi du temps, des changements de congé, et s'être fait dénigrer par le magistrat en question. Une autre explique avoir été ignorée ou bien critiquée sur son travail ou encore avoir fait l'objet de propos humiliants en public. Vous l'aurez compris, ce questionnaire met très largement en évidence un sexisme systémique au sein de l'institution judiciaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs le syndicat a choisi de restituer un grand volume des centaines de ces témoignages qui ont été reçus en se disant que justement c'était l'accumulation de tous ces témoignages qui permettrait de prendre conscience et d'objectiver donc l'ambiance parfois discriminante qui règne encore dans notre institution. Ça, ce sont les mots donc, qui accompagnent ce rapport. Vous aurez noté que ce sont souvent des hommes sur des femmes qui agissent de cette manière. Parmi les nombreux comportements à connotation sexuelle rapportés, des visionnages de films pornographiques à l'heure où passent les agents d'entretien, un supérieur hiérarchique qui joue avec le verrou des toilettes dans lesquelles se trouvait une collègue. Je vous passe un petit peu les propos trop verts. Voilà l'effet que tu me fais, toutes ces choses-là. Non sollicité, bien évidemment, des calendriers érotiques affichés, ou encore un juge d'instruction connu pour passer son temps à lorgner dans les décolletés, etc. etc. Une petite ambiance donc fort sympathique de mâle viril, bien sûr d'eux. Sur plusieurs pages, on peut aussi découvrir tout un florilège de propos sexistes. Je vous en donne quelques-uns quand même. Une femme, ça dit toujours un peu non avant de dire oui. Si j'avais dû attendre qu'une femme soit d'accord pour l'emballer. Votre robe, ça fait sadomaso. Tu ne te rends pas compte, tout le tribunal a envie de te violer. Oui, c'est les choses qu'entendent de nombreuses travailleuses de la justice, etc., etc. Je vous passe les propos les plus crus, qui sont aussi là pour dénigrer les capacités de travail, notamment de ces personnes. Les réponses font notamment état de remarques qui renvoient les femmes à leur place de mère ou de femme au foyer, des railleries ou des propos négatifs sur leur grossesse ou leur maternité, des commentaires sexuels, sexistes ou grossophobes sur le physique, des propos essentialisants et dénigrants à l'encontre des femmes et de leur prétendu mauvais caractère, hystérique, etc. Et j'en passe, tout ça pour dévaloriser aussi leur capacité professionnelle. Bon, vous l'aurez compris, on voit bien dans ces réponses que le sexisme est aussi dirigé contre... Un autre enseignement important de cette étude, c'est que ce sexisme va aussi s'appliquer, peut-être pas forcément de manière ouverte et publique, mais contre les justiciables, donc les gens qui font appel à la justice, par exemple, au moment de l'audience, par exemple des parties civiles dans le cadre d'audiences correctionnelles par rapport à des violences sexuelles et sexistes, ou alors entre collègues. Hein. Par exemple, de dire « Ah bah celle-là, elle est vraiment chiante, moi aussi je l'aurais bien tapé », des choses comme ça, qui sont entendues donc dans les cours entre avocats, entre juges, etc. Cette note fait état dans une moindre mesure de propos homophobes ou transphobes à l'égard notamment de magistrats ou de justiciables. Au total, 224 magistrats et magistrates, ça fait donc à peu près 42% des personnes qui ont répondu à cette questionnaire, se sont déclarés témoins et ou victimes en interne de propos ou de comportements sexistes ou discriminatoires. Et donc la question est posée par le syndicat, comment comprendre de telles attitudes dans une institution censée les réprimer, si ce n'est par une forme d'acceptation sociale et par le sentiment surtout d'être intouchable et légitime à agir de la sorte. Ce sentiment de toute puissance des auteurs s'explique ainsi, selon le syndicat, par un double rapport de domination de genre et de hiérarchie au sein d'une institution. Les réponses, je vous le disais, révèlent, ainsi qu'à l'échelle de la société tout entière, hein, c'est pour ça que je me permets de prendre du temps là-dessus, parce que je pense que tout ce qu'on entend et qu'on lit là peut largement être transposé à plein d'autres domaines professionnels. Donc une surproportion des femmes parmi les victimes des violences sexuelles et sexistes, hein, avec le chiffre de 83% presque, une surproportion d'hommes désignés comme les auteurs de ces violences, 91% d'entre eux. D'autre part, ces études montrent que plus de 70% des auteurs avaient un lien hiérarchique ou d'autorité avec la victime. Ce lien agit comme un facilitateur, explique la note, amplifié par la surproportion d'hommes à des postes de responsabilité, qui donc maintiennent ce petit climat de camaraderie virile. Si la magistrature est en effet composée en grande majorité de femmes, hein, c'est 71% des travailleurs pour l'année 2023, la proportion de celles-ci diminue à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie. C'est la fameuse évaporation des femmes au poste à haute responsabilité. Par exemple, sur les 12 plus gros tribunaux de France, seulement un poste de direction est occupé par une femme. L'étude développe ainsi la situation très préoccupante des auditeurs et des auditrices de justice. Donc ça, ce sont les étudiants à l'École nationale de la magistrature. Ces auditrices, principalement, sont particulièrement exposées aux maltraitances pendant leur stage juridictionnel. Ils et elles représentent un quart des victimes et près de la majorité des victimes des faits les plus graves, puisqu'on parle là de viol et d'agression sexuelle. Ce constat amène alors une autre question. Comment les personnes qui se retrouvent victimes peuvent-elles dénoncer les faits lorsque, justement, les faits concernent celui qui aurait dû être leur interlocuteur naturel, à savoir la personne référente, le juge, ou en tout cas un professionnel de la justice. En filigrane de ces réponses, une forme de déni transparaît dans la profession, ou en tout cas des carences et des angles morts, dont justement la fameuse prise en charge de ces violences par l'institution judiciaire elle-même. La note termine donc sur une série de propositions pour améliorer à la fois la prévention et le traitement de ces violences dans l'institution. Une première piste, ce serait de renforcer considérablement la formation, avec un module spécifiquement dédié aux violences au sein de l'institution dès le début de l'école de l'ENM, puis une formation obligatoire intégrée à l'offre de formation continue, mais aussi des modules adaptés pour les chefs de cour et de juridiction, ainsi que pour les instances qui participent au recrutement et à la discipline des magistrats, notamment les membres de l'Inspection Générale de la Justice et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le syndicat préconise aussi d'intégrer justement pleinement la question de ces violences sexistes et sexuelles pendant le recrutement et au cours de l'évaluation de ces fameux chefs de différents services. Une autre des propositions, c'est de rendre effectives les cellules de veille et d'écoute, puisqu'à ce jour, la plateforme de signalement qui s'appelle Allo Discrim, dont le ministère de la Justice s'est doté en 2020, reste très méconnue et elle n'a été saisie en 2023 que 3 fois sur 161 saisines de justice, notamment 3 fois pour des violences sexuelles ou sexistes. Voilà, je vous laisse avec cette question. Hein. Comment l'institution judiciaire peut-elle juger correctement les affaires de violences sexuelles et sexistes quand elle est elle-même confrontée à un sexisme systémique dont une partie des magistrats conteste l'existence ? Cette enquête montre en tout cas la volonté du syndicat de la magistrature de prendre enfin à bras-le-corps ce sujet crucial qu'il a lui-même longtemps délaissé. Et il compte d'ailleurs maintenir le groupe de travail qui a été créé à cette occasion afin de devenir un soutien naturel pour les magistrats te concernés.
Des nouvelles du monde.
On va continuer avec une petite chronique judiciaire absurde en mode le meilleur des mondes, et ça se passe dans la Drôme. Au nom de la lutte contre l'apologie du terrorisme, notamment suite au massacre du 7 octobre en Israël, le parquet de Valence s'est mis en quatre pour surveiller une jeune femme, notamment en autorisant la pose d'une balise GPS sous sa voiture. Elle va finalement être jugée aujourd'hui même pour des dégradations légères. Vous allez donc voir le décalage entre la procédure une fois de plus et les faits. Pendant plus de 5 semaines, Emma, c'est son nom, c'est une jeune potière et céramiste de 24 ans qui vit dans le Diois. Elle a roulé en effet avec cette balise GPS sous sa voiture, puisque sans qu'elle le sache, les gendarmes de la Drôme suivaient en temps réel tous ses déplacements. Ils ont aussi d'ailleurs fait des planques devant sa maison, épluché ses comptes bancaires, adressé des réquisitions aux opérateurs téléphoniques pour géolocaliser son numéro et identifier ses principaux contacts. Ce qui a valu donc un tel traitement à la jeune femme, c'est d'être soupçonnée d'une dizaine de tags contre le massacre à Gaza et des tags en soutien à la Palestine au cours de l'automne 2023. Oui, rien que ça. Initialement, elle a été visée par une enquête pour apologie donc, du terrorisme, et cette jeune Emma doit finalement être jugée aujourd'hui par le tribunal de Valence pour des dégradations légères par inscription. Ça, c'est les tags. Un outrage aux forces de l'ordre, puisqu'elle a tagué entre autres ACAB, qui veut dire All Cops Are Bastards, sur un mur. Et aussi parce qu'elle a refusé de donner ses empreintes et son ADN au cours de sa garde à vue. Stop massacre à Gaza, par exemple, c'est écrit sur le mur d'une maison, à la peinture noire. À côté, le maire du village a trouvé une banderole « Solidarité avec les peuples de Palestine ». pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Il a prévenu les gendarmes suite à ces tags. Et c'est sur la route qui mène à la ville de Dieulefit que les gendarmes ont découvert d'autres inscriptions qu'ils ont reliées à la prévenue, avec écrit par exemple « Tu préfères passer ta vie avec Pascal Praud ou Darmanin à Cab ?» Une citation de Paul Valéry qui dit que la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui toujours se connaissent et ne se massacrent pas. Dans un contexte donc particulièrement tendu, on était juste après les massacres du 7 octobre en Israël, alors que le garde des Sceaux, justement, appelait les procureurs à la plus grande vigilance, une enquête pour apologie du terrorisme a été immédiatement ouverte sur la foi donc, de ces seuls écrits, donc les procès-verbaux de la gendarmerie qui relataient ces tags. L'avocate de Emma, Alice Becker, a jugé justement cette décision inquiétante pour le balancier entre répression et liberté d'expression. À aucun moment, dit-elle, ces tags ne peuvent être assimilés à l'apologie d'un groupe terroriste ou présentés comme favorables aux attaques. Avec l'aval du parquet de Valence et d'une juge des libertés de la détention, qui a autorisé notamment toutes ces techniques de surveillance très poussées, les gendarmes se sont pourtant lancés dans une véritable traque pour identifier et surveiller donc l'autrice supposée des inscriptions. Parmi toutes les qualifications pénales retenues, seule l'apologie du terrorisme, qui est passible de 5 ans de prison, permet en effet un déploiement aussi exceptionnel de moyens. Alors, l'objectif de cette surveillance, c'était de trouver l'adresse de Emma. Et donc, le parquet a autorisé les gendarmes à poser une balise GPS sous sa voiture pendant 8 jours pour la géolocaliser en temps réel, sachant que la voiture n'était pas difficile à trouver puisqu'elle était garée devant chez elle. C'était la voiture de son père. Donc, pas si compliqué de trouver son adresse. D'ailleurs, l'adresse qu'il cherchait et où ils sont posés à la balise, c'était son adresse fiscale. Hein. Il suffisait de téléphoner un petit coup aux impôts et avoir confirmation qu'elle habitait bien là. Donc peut-être pas la peine de déployer autant de moyens. Ainsi, au bout d'une semaine, les gendarmes ont estimé qu'ils ne pouvaient toujours pas localiser le domicile de la jeune femme avec certitude. Hein. Ils ont un doute entre deux maisons mitoyennes de la même rue. Ils ont ainsi obtenu de pouvoir utiliser la balise pour un mois supplémentaire, à compter du 8 décembre 2023. C'est d'ailleurs toujours une juge des libertés et de la détention de Valence qui a autorisé cette mesure. Le jour même, d'ailleurs, les gendarmes ont contrôlé la jeune Emma au volant de son véhicule et elle leur a donné son adresse, sa vraie adresse. Hein. Mais la surveillance a continué, visiblement, c'est pas une preuve suffisante, il leur fallait le GPS. En plus, ils ont prévu de l'arrêter, donc en prévision de son interpellation, les enquêteurs ont obtenu des magistrats l'autorisation de recourir à la comparution forcée de la jeune femme et à des perquisitions sans assentiment de son domicile, de sa voiture et de son téléphone portable, sous prétexte qu'elle serait susceptible de les refuser. Donc si vous refusez, ils peuvent demander à vous les prendre quand même. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été arrêtée sans opposer de résistance. C'était le 22 janvier 2024. En sortant de chez elle, elle a même accepté de donner le code de déverrouillage de son téléphone. Au cours des perquisitions qu'ils ont fait par la suite, les gendarmes ont saisi plusieurs bombes de peinture chez elle et dans sa voiture, ainsi que divers objets à connotation politique, des autocollants pour la libération de Georges Abdallah, des affiches de soutien à la Palestine, d'autres affiches qui portaient des slogans contre Emmanuel Macron, contre la loi Kasbarian et la police, des tracts, bref, une militante. Ils extraient notamment 4 images de son téléphone pour les rajouter au dossier, une publication du fameux site Contre-Attaque, duquel je vous partage souvent des informations, une page de podcast de Radio France sur l'extrême gauche des années 70, attention, écouter de la radio ça devient dangereux, un appel international à une semaine d'action contre toutes les guerres, et enfin un photomontage très fin où il y avait écrit « Nique le capital ». Voilà donc les preuves de cette apologie du terrorisme. La jeune femme a exercé son droit au silence, elle a refusé de répondre aux questions des gendarmes, par exemple des questions sur sa confession religieuse, sur son avis sur le conflit israélo-palestinien, ses opinions sur la police, la gendarmerie ou la justice. À la fin de sa garde à vue, qui n'a duré que 8 heures d'ailleurs, Emma a été relâchée sans même être placée sous contrôle judiciaire. Donc visiblement pas un grand danger pour la société. La vice-procureure chargée de l'affaire a d'ailleurs finalement décidé de renoncer à toutes les poursuites pour apologie du terrorisme, alors que c'est à cause de ce délit que toute la procédure a pu être montée et que les surveillances ont eu lieu. Elle est donc convoquée aujourd'hui, peut-être c'était ce matin, au tribunal de Valence pour répondre des infractions qui restent. D'ailleurs, les 3 propriétaires des maisons qui se sont retrouvés avec des tags sur leurs murs, ainsi que le département de la Drôme, qui est responsable du rond-point où il y a eu la banderole, ils auront la possibilité de se constituer partie civile. Au cours de la première, au premier dépôt de plainte qui a été posé par les gendarmes, ils cherchaient un potentiel mobile antisémite à ces tags. Ils leur ont demandé d'ailleurs à tous ces propriétaires de murs s'ils étaient juifs. Mais non, aucun ne l'était. Catholique a expliqué une femme de 90 ans. Et un homme de 66 ans a expliqué « Ce n'est pas dirigé contre ma personne. Pour moi, ils ont tagué sur mon mur. » Car il se trouve à l'entrée de la commune et qu'il est bien visible de ses automobilistes. Voilà, un peu de bon sens.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et je vais terminer avec cette information qui a été glanée dans les colonnes de Libération, qui nous parle du dernier rapport d'Amnesty International, qui j'espère ne fera pas l'objet d'une accusation d'apologie du terrorisme. On y lit que près de 45 000 personnes ont été tuées, des enfants amputés et des déplacements forcés depuis le 7 octobre 2023. La bande de Gaza est le théâtre d'une offensive militaire israélienne d'une brutalité sans précédent. Et c'est un rapport qui est sorti aujourd'hui même, un rapport accablant délivré par l'ONG Amnesty International. Elle accuse dans ses pages Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Selon ce document de près de 300 pages, qui s'appuie sur une analyse approfondie des événements survenus entre octobre 2023 et le début juillet 2024, Israël a délibérément entrepris des actions qui visent à la destruction physique des Palestiniens de Gaza, en répondant ainsi à 3 des 5 actes qui sont interdits au titre de la Convention de 1948 sur le génocide. Ces 3 actes étant des meurtres, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, et enfin la soumission intentionnelle à des conditions de vie destructrices. Amnesty International, cette organisation de défense des droits humains, a également conclu que ces actes avaient été commis avec l'intention de détruire cette population. Ils disent ceci, « Mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe sous-humain, indigne de droits humains et de leur dignité, démontrant ainsi son intention de les détruire physiquement. » Ça, ce sont les mots de Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, et elle précise que ce n'est pas une conclusion politique, mais une décision qui s'appuie sur des preuves solides. Ce carnage, dit-elle, qui se déroule sous les yeux du monde, s'inscrit dans le prolongement de plusieurs années d'apartheid, de spoliation et d'occupation militaire illégale. Aujourd'hui, donc Israël a bien évidemment rejeté ce rapport qui est pour eux fabriqué de toutes pièces et basé sur des mensonges. Je parle là du gouvernement israélien, bien évidemment. Pour revenir à cette qualification de génocide, pour pouvoir l'utiliser, Amnesty International s'est appuyé sur les récits de 212 personnes, des victimes ou des témoins palestiniens, également des entretiens avec des travailleurs de la santé, des preuves, des photos, des vidéos, ou encore l'analyse des déclarations de hauts responsables israéliens. Ce rapport couvre une période de 9 mois, mais l'ONG estime que les politiques et les actions d'Israël n'ont pas changé de manière significative depuis la fin de son enquête, qui était, je vous l'ai dit, au mois de juillet de cette année. Au contraire même. Au cours des derniers mois, la crise s'est particulièrement aggravée dans le gouvernorat du nord de la bande de Gaza, où la population assiégée fait face aux bombardements incessants, aux déplacements forcés et aux sévères restrictions d'aide humanitaire. Selon ce rapport, Israël n'a donc pas tenu compte des avertissements concernant la situation humanitaire catastrophique et les décisions juridiquement contraignantes de la Cour internationale de justice, fin janvier, qui ont ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher de potentiels actes de génocide dans cette enclave palestinienne. Israël justifie son opération militaire auprès de ses alliés par l'objectif d'éliminer les membres du Hamas qui sont cachés parmi les civils. Or, les actions d'un État peuvent servir le double objectif d'atteindre un résultat militaire et de détruire un groupe en tant que tel, souligne Amnesty International. L'armée israélienne a effectué plus de 10 000 frappes aériennes au cours des 2 seuls premiers mois de guerre, y compris sur des zones civiles avec des bombes de 900 kg, transformant la bande de Gaza en zone inhabitable, ce qui a entraîné des préjudices sans précédent à la population, en plus des traumatismes psychologiques irréversibles. Pour arriver à ces conclusions, Amnesty a enfin également cherché à déterminer si Israël avait commis ces actes avec l'intention spécifique de détruire le groupe en tout ou en partie. C'est une notion qui distingue le génocide d'autres crimes de droit international. La population de Gaza représente environ 40% des 5,5 millions de Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés. Et ce rapport précise donc que l'intention de détruire un groupe en partie est ici suffisante pour établir donc cette intention qui est requise pour pouvoir qualifier le crime de génocide. Enfin, l'organisation a identifié une centaine de déclarations publiques d'officiels israéliens, dont 22 de très hauts responsables, qui appellent ou qui justifient des actes génocidaires, ce qui fournit des preuves directes de l'intention donc, de ces actes. Un langage déshumanisant a été largement repris, notamment sur le terrain, par des soldats israéliens. La destruction des infrastructures essentielles, la multiplication des ordres d'évacuation et le blocage de l'aide humanitaire, tout cela font partie de méthodes qui, avec le temps, peuvent mener à la destruction physique ou biologique des Palestiniens de Gaza. Pour éviter davantage de souffrance, Amnesty International avertit que les États qui continuent de fournir des armes à Israël violent leur obligation de prévenir le génocide et qu'ils risquent de devenir complices de ce crime. Elle les appelle ainsi à respecter notamment les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Les crimes atroces commis le 7 octobre 2023 par le Hamas et d'autres groupes armés contre les Israéliens et des victimes d'autres nationalités ne peuvent jamais justifier le génocide d'Israël contre les Palestiniens à Gaza, conclut le rapport de d'Amnesty International.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
C'est ainsi que s'achèvent ces nouvelles du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra si d'ici là, on a un gouvernement ou quelque chose qui s'en approche. En tout cas, si on peut y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous attend pour les prochains mois. Allez, le jeu continue. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, on continue en musique. Et puis, à 14h, on va parler BD avec Bruno.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Hein. Par exemple, il y en a plein. Hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.